Ici, Moscou. À propos, avec Alexandre Artamonov.
$6. La guerre de dévaluation des devises bat son plein et la fin du dollar en tant que monnaie internationale apparaît presque comme imminente. Le grand expert en la matière, Jacques Sapir, nous livre sa prévision sur l'avenir de la haute finance mondiale.
Jacques Sapir, bonjour. Merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie. On vous salue.
Bonjour.
Et on aurait aimé vous demander votre avis aujourd'hui sur quelque chose qui nous étonne tous. Enfin, il s'agit du volet économique, la réalité internationale. Et il y a la Chine en liaison avec la Russie qui voudrait se débarrasser, d'après ce qu'on a compris, du dollar dans les échanges respectifs entre justement la Russie et la Chine dans le domaine gazier et pétrolier. Alors, ça prend tournure depuis février-mars 2014. Et finalement, les États-Unis peuvent très bien ne pas être plus le pilier financier du monde occidental et du monde international si on envisage les choses de façon un peu plus globale. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai? Est-ce que ça peut vraiment arriver? Ou s'agit du bluff de la Russie et de la Chine?
Alors, sur ce point, il est très clair que l'initiative que viennent de prendre le gouvernement russe et le gouvernement chinois, cette initiative est potentiellement très importante. En effet, le dollar joue trois rôles dans l'économie internationale. C'est d'abord une unité de compte. Beaucoup de prix sont calculés en dollars, en particulier pour les matières premières, pas seulement pour le gaz et le pétrole. C'est aussi vrai pour les métaux, c'est aussi vrai, par exemple, pour le blé et pour les différentes céréales. Il est une monnaie de transaction, c'est-à-dire la monnaie dans laquelle se font les règlements de ces transactions internationales, et il est aussi une monnaie de réserve. Ce que voudrait changer justement cet accord entre le gouvernement russe et le gouvernement chinois, c'est l'usage du dollar comme monnaie de transaction dans certaines transactions, en particulier les transactions qui portent sur le gaz et le pétrole, et on peut penser que cela se fera, mais ça impose évidemment que le rouble soit reconnu en Chine, ce qui est déjà le cas, et que le yuan soit reconnu en Russie, ce qui n'est le cas en fait que depuis la fin de l'année dernière, puisque c'est à la fin de l'année dernière qu'il y a eu les premières cotations du yuan sur la bourse de Moscou. D'une manière plus large, cette démarche correspond en fait à un souci assez constant de toute une série de pays, et là ça va beaucoup plus loin que la Russie et la Chine, ça concerne les pays du Golfe arabo-persique, ça concerne aussi les pays d'Amérique latine qui sont des producteurs de matières premières. Ces pays veulent sortir de la zone dollar pour ce qui concerne la monnaie de transaction. Et ajoutons à cela un fait. La plainte déposée par le gouvernement américain contre la banque française BNP Paribas. Plainte qui est fondée sur le fait que des opérations contraires à la loi américaine ont été faites par cette banque alors que les succursales de cette banque n'étaient pas sises aux États-Unis, mais parce que l'on utilisait le dollar et parce que la chambre de compensation du dollar est aux États-Unis, le gouvernement américain considère que des lois américaines ont été violées. Bon, c'est une question juridique extrêmement complexe, mais on voit bien que ce précédent, en sens juridique du terme, ce précédent ne peut qu'inquiéter toute une série de pays qui font leurs transactions en dollars et ne peut que les inciter à basculer vers d'autres monnaies de transaction.
Merci de cette réponse, Jacques Sapir. Alors, la seconde question, très rapidement, pour ne pas abuser de votre temps, que l'on sait très précieux. Est-ce que, d'après vous, il existerait vraiment une chance de créer cette nouvelle monnaie de réserve? Et puisqu'on a parlé déjà une fois avec vous du Bitcoin, qui est une sorte de monnaie électronique, puis peut-être l'euro, mais l'euro est en crise. Alors, hormis le dollar, a-t-on vraiment une chance, d'après vous, comme quelqu'un qui maîtrise à fond la haute finance et le contexte, disons, géopolitique, de voir un jour éclore cette monnaie, ou bien il y aurait plutôt donc plusieurs monnaies pour chaque région distincte, quand on dit tout.
Alors, c'est d'ailleurs un très vieux problème. Il faut se souvenir que le rôle du dollar comme monnaie de réserve avait été attaqué par le général de Gaulle en 1965 et 1966. Donc, vous voyez, il y a maintenant très longtemps, et régulièrement, à chaque nouvelle crise financière et monétaire internationale, on reparle de ce problème. Alors, d'un côté, il est clair que le système actuel, qui est fondé sur un usage non pas exclusif, mais très largement dominant du dollar comme une monnaie de réserve, n'est pas satisfaisant. Et d'ailleurs, on le voit dans la structure des réserves de change des différentes banques centrales. On voit par exemple que, en plus du dollar, il y a évidemment l'euro, mais il y a aussi maintenant beaucoup de nouvelles monnaies, par exemple le dollar canadien, le dollar australien, le dollar de Singapour, etc. Bon, donc il y a à l'évidence un besoin de diversification au minimum et peut-être plus un besoin de changer le système. À partir de là, on voit très bien dans quelle alternative nous sommes. Pour opérer un changement complet du système monétaire international, il faudrait que la situation politique soit mûre pour une conférence internationale sur le modèle de la conférence de Bretton Woods qui s'est tenue en 1944. Et on peut penser qu'aujourd'hui, les temps ne sont pas encore mûrs, c'est-à-dire que les États-Unis, qui bénéficient d'une certaine manière de la situation actuelle, feront tout pour maintenir cette situation, ou en tous les cas pour freiner le mouvement vers un changement. Et donc, l'autre possibilité, qui constitue l'autre branche de l'alternative, c'est que l'on voit se développer des monnaies qui, au niveau régional, prennent de plus en plus le rôle de monnaie de réserve régionale. Alors, très clairement, je pense que c'est l'ambition de la Chine de voir la monnaie chinoise, le yuan, devenir d'ici quelques années une monnaie de réserve au niveau de la zone Asie-Pacifique, peut-être d'ailleurs en combinaison avec le dollar australien, voire la monnaie de Singapour. Bon, on sait qu'il y a aussi le projet de constituer le rouble en monnaie de réserve sur l'Eurasie et par rapport aux pays de la CEI. Et donc on va voir très probablement émerger une multiplicité de monnaies qui vont progressivement éroder la position du dollar comme monnaie de réserve internationale.
Jacques Sapir, merci de ces réponses. On vous en sait gré. On espère vous contacter encore et encore pour avoir vos lumières sur ces sujets financiers vraiment très intéressants pour nos auditeurs. On vous dit à très bientôt sur les ondes de la Voix de la Russie. Merci encore.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
La situation se prête bien à l'essor de l'Union Eurasienne car la Russie a pleine maîtrise de la partie du monde la plus riche en or, à savoir les Sibéries. Or, la remise en question du dollar mettra inéluctablement fin à la période du règne des usuriers occidentaux qui ont injecté dans le système bancaire international les produits dérivatifs pour des milliards et milliards des redevances interbancaires, aussi bien que dans le secteur des prêts à la population, marché d'hypothèques non soldées, etc. Dépourvu de mines de métal précieux sur son propre territoire, sauf pour les États-Unis qui ont bel et bien annexé l'Alaska aux Russes il y a quelques 140 ans de cela, le capital occidental a inventé d'abord le système marxiste, qui essaie de valoriser le travail investi dans les produits manufacturés. Ainsi, si l'économie d'un pays est riche, ce pays aurait droit à une devise forte, qui vaut plus que celle d'un pays pauvre. En fait, cet ordre économique ne fut jamais respecté à la lettre, mais a vite fait de céder place à une véritable bourse où les États, forts, décidaient qui pouvait devenir riche et qui non. L'Arabie Saoudite et Israël se sont vus accorder un crédit de confiance, et le Liban, pourtant État financier jusqu'aux années 80, ou l'Irak, richissime en pétrole et stable jusqu'à l'invasion américaine, se sont vus refuser ce droit. Le seul pays qui a toujours refusé le joug financier colonial fut l'URSS et ses alliés. Ainsi donc, le bouleversement dans le monde de la haute finance, préparé de longue date par les financiers chinois et russes, vont torpiller la capacité américaine de projeter ses forces armées à l'étranger. Et comme on vit à l'époque de la bourse mondiale, on ne donnerait pas cher pour la devise d'un État dont l'économie souffre des carences de stagnation, à ne citer que Detroit, et qui ne peut plus faire peur. Bref, les États-Unis n'auront plus les moyens de rançonner le monde et de porter la guerre en Ukraine, en Irak, en Afghanistan et au Proche-Orient. À partir de ce moment-là, l'histoire reprendra son cours naturel, mais sans Washington qui sera relégué au rang des puissances régionales. Un jour, lorsque Vladimir Poutine répondait aux questions des journalistes occidentaux, il a plaidé la cause d'une réponse graduelle et non symétrique et a promis de ne jamais plus revenir à la course aux armements. Le renversement du dollar apparaît comme un moyen beaucoup plus efficace pour faire crouler le Goliath d'outre-Atlantique. Alexandre Artamonov, La Voix de la Russie.